Le scélérier n'était pas un idiot. Il décida qu'il ne valait plus la peine de jouer au chat et à la souris, d'autant qu'il se voyait dans le rôle de la souris. « Frère Guillaume, dit-il, je vois que tu sais beaucoup plus de choses que je ne l'imaginais. C'est vrai, je suis un pauvre homme de chair et je cède aux appâts de la chair. Salvatore m'a dit que toi ou ton novice hier soir, vous les avez surpris dans les cuisines. Tu as beaucoup voyagé, Guillaume. Tu sais que pas même les cardinaux d'Avignon ne sont des parangons de vertu. Je sais que ce n'est pas pour ces petits et misérables péchés que tu es en train de m'interroger, mais je comprends aussi que tu as appris quelque chose sur mon histoire d'antan. J'ai eu une vie bizarre, comme il arriva à nombre d'entre nous, minorites. Il y a bien des années de cela, j'ai cru en l'idéal de pauvreté. J'ai abandonné la communauté pour me livrer à la vie errante. J'ai cru en la prédication de Dolcino, ainsi que tant d'autres avec moi. Je ne suis pas un homme cultivé, je suis né dans une famille d'artisans, et je ne sais pas grand-chose en théologie. Je ne sais pas même pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait à l'époque. Tu vois, pour Salvatore, c'était compréhensible. Il provenait des serfs de la glèbe, enfants des famines et des maladies. Dolcino représentait la rébellion contre ceux qui l'avaient affamé. Pour moi, ce fut différent. J'étais de famille citadine. Je ne m'enfuyais pas devant la faim. Ce fut, je ne sais comment dire, une fête des folles, un beau carnaval. Sur les monts avec Dolcino, avant que nous fussions réduits à manger la chair de nos compagnons morts au combat, avant qu'il en mourût tant de privations, qu'on ne pouvait tous les manger, qu'on les jetait en pâture aux oiseaux et aux bêtes féroces sur les pentes du Rebello. Ou peut-être même en ces moments-là, on respirait un air, puis-je dire, de liberté. Je ne savais pas, avant, ce qu'était la liberté. Les prêcheurs nous disaient « La vérité vous fera libre ». Nous nous sentions libres. Nous pensions être dans la vérité. Nous pensions que tout ce que nous faisions était juste. « Et là-bas, vous avez commencé à vous unir librement avec une femme ?» demandai-je, sans savoir même pourquoi. Mais les paroles qu'Hubertin m'avait dites la nuit précédente m'obsédaient, et ce que j'avais lu dans le scriptorium et ce qui m'était personnellement arrivé. Guillaume me regarda intrigué. Il ne s'attendait probablement pas que je fusse aussi hardi et impudent. Le scélérier me fixa comme si j'étais un curieux animal. « Sur le Rebello, dit-il, il y avait des gens qui pendant toute leur enfance avaient dormi à 10 et davantage sur quelques coudées de terre battue, frères et sœurs, pères et filles. Que veux-tu que ce fût pour eux d'accepter cette nouvelle situation ? Ils faisaient par choix ce que d'abord ils avaient fait par nécessité. Et puis la nuit, quand tu redoutes l'arrivée de troupes ennemies et que tu te serres contre ton compagnon à même la terre pour ne pas sentir le froid. Les hérétiques, vous autres moignillons, qui venez d'un château et aboutissez dans une abbaye, vous croyez que c'est une manière de penser inspirée par le démon. En revanche, c'est une manière de vivre. Et ça a été une expérience nouvelle. Il n'y avait plus de maître et Dieu, nous disait-on, était avec nous. Je ne dis pas que nous avions raison, Guillaume, et de fait, tu me vois ici parce que je les ai bien vite abandonnés, mais c'est que je n'ai jamais compris vos doctes disputes sur la pauvreté de Christ et la pratique et le fait et le droit. Je te l'ai dit, ce fut un grand carnaval, et le carnaval, c'est le monde à l'envers. Puis tu deviens vieux sans devenir sage, mais tu deviens glouton. Et ici, je me fais glouton. Tu peux condamner un hérétique, mais tu voudrais condamner un glouton ? Suffit comme ça, Remigio, dit Guillaume. Je ne t'interroge pas sur ce qui s'est passé jadis, mais sur ce qui s'est passé tout récemment. Aide-moi, et tu peux être certain que je ne chercherai pas à te perdre. Je ne peux et ne veux pas te juger. Mais il faut me dire ce que tu sais sur les événements de l'abbaye. Tu te promènes trop, de jour et de nuit, pour ne pas savoir quelque chose. Qui a tué Venantius ?
Je ne le sais pas, je te le jure. Je sais quand il est mort et où.
Quand ? Où ?
Laisse-moi le temps de raconter. Cette nuit-là, une heure après Compli,
je suis entré dans les cuisines.
Par où? Et pour quelle raison?
Par la porte qui regarde le jardin. J'ai une clé que je me suis fait faire depuis longtemps par les forgerons. La porte des cuisines est la seule qui ne soit pas barrée de l'intérieur.
Et les raisons, elles ne comptent pas. Tu as dit toi-même que tu ne veux pas m'accuser pour les faiblesses de ma chair.
Il sourit embarrassé. Mais je ne voudrais pas non plus que tu croies que je passe mes journées dans la fornication. Ce soir-là, je cherchais de la nourriture pour l'offrir à la fille que Salvatore devait faire entrer dans l'enceinte.
Par où?
Oh, l'enceinte des murailles a bien d'autres entrées, à part la porte principale. Mais ce soir-là, la fille ne vint pas. Je la renvoyais précisément à cause de ce que je découvris et que je vais te raconter. Voilà pourquoi je tentais de la faire revenir dans la nuit d'hier. Revenons à la nuit entre dimanche et lundi. Voilà. Je suis entré dans les cuisines et j'ai vu Venantius par terre.
Mort.
Dans les cuisines?
Oui.
Près de l'évier. Il venait peut-être tout juste de descendre du scriptorium.
Aucune trace de lutte?
Aucune. Ou plutôt, à côté du corps, il y avait une tasse brisée et des traces d'eau par terre.
Comment sais-tu qu'il s'agissait d'eau?
Je ne le sais pas. J'ai pensé que c'était de l'eau. Qu'est-ce que cela pouvait être?
Comme Guillaume me le fit observer après, cette tasse pouvait signifier deux choses différentes. Ou bien précisément là, dans les cuisines, quelqu'un avait donné à boire à Venantius une potion empoisonnée, ou bien le malheureux avait déjà avalé le poison. Mais où et quand? Et il était descendu boire pour calmer une brûlure soudaine, un spasme, une douleur qui lui embrasait les entrailles, ou la langue, car à coup sûr la sienne devait être noire comme celle de Béranger. De toute façon, pour le moment, on ne pouvait en savoir davantage. Lorsqu'il eut aperçu le cadavre, Remigio, terrorisé, s'était demandé que faire, et il avait résolu de ne rien faire du tout. S'il avait demandé secours, il aurait dû admettre avoir rôdé pendant la nuit dans l'édifice, et cela n'aurait été utile en rien au frère désormais perdu. Partant, il avait résolu de laisser les choses telles quelles, en attendant que quelqu'un découvrît le corps au petit matin après l'ouverture des portes. Il avait couru pour arrêter Salvatore, qui déjà faisait pénétrer la fille dans l'abbaye. Puis, lui et son complice, ils s'en étaient retournés dormir, si l'on pouvait appeler sommeil la veille agitée qu'ils eurent jusqu'à matine. Et à matine, quand les porchers vinrent avertir l'abbé, Remigio croyait que le cadavre avait été découvert où lui l'avait laissé, et il était demeuré interdit en le revoyant dans la jarre. Qui avait fait disparaître le cadavre des cuisines? Sur ce point-là, Remigio n'avait aucune idée.
Le seul et unique qui peut circuler librement dans tout l'édifice, c'est Malachi, dit Guillaume. Le cellérier réagit avec la dernière énergie.
Non, pas Malachi.
En somme, je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas moi qui t'ai dit quelque chose contre Malachi.
Sois tranquille. Quelle que puisse être la dette qui te lie à Malachi.
Sait-il quelque chose sur toi?
Oui, rougit le cellérier.
Et il s'est comporté en homme discret. À ta place, je surveillerai Bantz. Il avait d'étranges liens avec Béranger et Venantius. Mais je te le jure, je n'ai rien vu d'autre. Si j'apprends quelque chose, je te le dirai.
Pour l'heure, cela peut suffire. Je reviendrai te trouver si j'en ai besoin.
Le cellérier, d'évidence soulagé, retourna à ses trafics, rabrouant vertement les villageois qui, entre-temps, avaient déplacé je ne sais trop quel sac de semences. C'est alors que nous rejoignit Séverin. Il tenait à la main les vers de Guillaume, ceux qui lui avaient été dérobés deux nuits auparavant.
« Je les ai trouvés dans la coule de Béranger, » dit-il. « Je les ai vus sur ton nez l'autre jour dans le scriptorium. Ce sont les tiens, n'est-ce pas ?»«
Dieu soit loué !» s'exclama joyeusement Guillaume.
« Nous avons résolu deux problèmes. J'ai mes vers, et je sais enfin, et avec certitude, que c'était Béranger, l'homme qui nous vola l'autre nuit dans le scriptorium. »
Nous avions à peine fini de parler qu'arriva en courant Nicolas de Morimonde, encore plus triomphant que Guillaume. Il tenait dans ses mains une paire de vers terminés, montés sur leur fourche.
« Guillaume ! » criait-il. « J'y suis arrivé tout seul ! Je les ai finis ! Je crois qu'ils fonctionnent !»
C'est alors qu'il vit Guillaume avec d'autres verres sur le nez, et il resta médusé. Guillaume ne voulut pas l'humilier. Il ôta ses vieux verres et essaya les nouveaux.
« Ils sont meilleurs que les autres, » dit-il. « Cela veut dire que je garderai les vieux en réserve et que je porterai toujours les tiens. »
Puis il se tourna vers moi.
« Atso, maintenant je me retire dans ma cellule pour lire les parchemins que tu sais, finalement. Attends-moi quelque part. Et merci, merci à vous tous, mes très chers frères. »
La troisième heure sonnait et je me rendis dans le chœur pour réciter avec les autres l'hymne, les psaumes, les versets et le kyrie. Les autres priaient pour l'âme du mort Béranger. Moi, je remerciais Dieu de nous avoir fait trouver non pas une, mais deux paires de vers. Grâce à la grande sérénité qui régnait, toutes les turpitudes que j'avais vues et entendues, oubliées, je m'assoupis, me réveillant quand l'office prit fin. Je me rendis compte que cette nuit-là, je n'avais pas dormi, et je fus troublé à la pensée que j'avais en outre utilisé beaucoup de mes forces. C'est alors que, une fois en plein air, ma pensée commença à être hantée par le souvenir de la jeune fille. Je cherchais à me distraire et me mis à circuler à vive allure à travers le plateau. J'éprouvais un sentiment de léger vertige. Je frappais mes mains engourdies l'une contre l'autre. Je battais des pieds par terre. J'avais encore sommeil et pourtant je me sentais bien réveillé et plein de vie. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.